Bonjour à chacun. Paul évoquait tout à l'heure la barque sur le lac. Aujourd'hui, Marie-Christelle, Désiré et Pierre sont sur ce lac en Israël. Nous venons de chanter ce cantique qui évoquait le destructeur. Je connais ce cantique depuis que je suis petit. Je me souviens surtout de ce cantique quand j'étais au culte à Tournai. Et aujourd'hui, nous pensons à résister au diable. Encore faut-il le connaître. Et quand j'avais 8-9 ans, quand j'étais au culte, là, à Tournai, souvent, j'étais ici, mais aussi à Tournai, à la mission évangélique belge, ma grand-mère me parlait d'un homme, un chrétien, qui était dans la petite assemblée, et elle me disait, il voit le diable partout. Alors, je me souviens même de son nom, que je tairai aujourd'hui, il est bien sûr décédé, cet homme. Certainement, cela prêtait à sourire. L'action du diable était souvent vue à l'époque comme caractérisée par des comportements de chrétiens dits mondains ou trop proches des excès du monde, dont le vêtement, le maquillage, la fréquentation de lieux comme le cinéma ou le café. Cela partait le plus souvent d'une bonne intention, mais versait immanquablement vers le légalisme peu nuancé. Si une réflexion sur ce qu'est le monde et son influence sur nos vies, comme nous venons de le chanter, nous gagnerions certainement à porter un regard critique et sans concession sur ce qui, d'une manière ou l'autre, nous a servi. Que dire aujourd'hui de tout ce qui concerne les aspects troublants des réseaux sociaux dans des domaines les plus divers? J'ai lu une statistique, je suis tombé dessus cette semaine, qui mentionnait un site dont j'ai oublié le nom, mais qui contenait porn. Je ne dois pas vous donner un dessin. Mais on parlait de plus de 9 milliards de connexions. L'apôtre Paul évoque à plusieurs reprises les péchés qui tournent autour de ce sujet. Le 12 juin, à 20h, je vous l'annonce, nous aurons d'ailleurs un webinaire, c'est comme ça qu'on dit. Ce sera Daniel Librec qui évoquera ce thème pour nous, pour les membres de notre association, le 12 juin à 20h, au soir. Paul vous enverra le lien si vous n'êtes pas dans la liste. Toutefois, sans tomber dans ces excès légalistes du passé, il me semble que nous serions aujourd'hui plutôt dans une posture inverse, qui serait de manquer de discernement quant à la présence et à l'action du diable aujourd'hui. Le plus souvent, nous ne considérons presque uniquement ces interventions majeures. Premièrement, la tentation qui conduit à la chute. Aucun de nous n'ignore ce passage de Genèse 3, 4 et 5, versets 4 et 5, qui dit « Le principe qui agit dans le serpent » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Et nous savons comment tout cela a évolué. Et puis les souffrances de Job, il a été évoqué tout à l'heure par Paul. Job 1, 7 à 12. Qui d'entre nous ne connaît pas les souffrances de Job ? L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, mais porte donc la main sur lui, contre lui. Touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Et puis, un autre sujet que nous connaissons sans doute pratiquement par cœur, la tentation de Jésus dans le désert, 40 jours dans le désert où l'Esprit a emmené le Seigneur. Matthieu 4, 1, « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Il y est appelé aussi le tentateur. Et après la troisième tentation, Jésus lui dit, versets 10 et 11 du même chapitre, « Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. » En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Jésus refusa d'agir à la demande de Satan et donc de tomber entre ses griffes et bien sûr de pécher. Le pouvoir promis par le diable est bien éphémère puisque son sort est déjà scellé. C'est une leçon pour nous de tomber dans les griffes du diable alors qu'il a perdu la bataille. Un autre sujet, la saisie de Judas qui trahit Jésus. Tous nous connaissons cela. Or Satan, Luc 22, les versets 3 à 6, « Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des douze. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Matthieu 26, 25 dit « Judas, celui qui le trahissait, prit la parole lorsqu'ils partagèrent le pain et le vin. « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Jean rapporte dans son évangile une autre mention de Satan dans ces circonstances, Jean 13, versets 26 et 27. À la question de Pierre, Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper, puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. » Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Et dans ce contexte, il y a la prière de protection du Seigneur. Luc 22, même chapitre 3, versets 31-34, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Bien sûr que le Seigneur connaît ce qui allait se passer, et il prie pour le disciple. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies trois fois nié me connaître. » Satan veut les cribler, c'est-à-dire les ébranler et les perdre par une violente tentation, pendant laquelle ils seront comme le blé, agités, vivement dans un crible ou dans un vent, comme on dit, selon les termes appropriés. Jésus exprime ses pensées en des termes qui sont une allusion au prologue de Job, où Satan demande à Dieu de livrer son serviteur en sa puissance. Tel est le sens du mot que nous traduisons ici par « vous a demandé, vous a réclamé », afin de vous posséder en son pouvoir. La terrible épreuve à laquelle furent bientôt exposés tous les disciples, et Pierre en particulier, n'explique que trop la vérité et la force de cet avertissement du Seigneur. On voit par ces paroles combien Jésus pénétrait clairement à l'avance l'histoire de ses souffrances. Non seulement le fait de son supplice, il l'a annoncé, mais même les causes mystérieuses de ce drame, les influences de la puissance des ténèbres, sont à nu devant ses yeux. Même si on a beaucoup écrit sur le rôle de Judas, était-il libre? Était-il coincé dans le rôle qu'il devait jouer? Judas avait sans doute une tentation pour l'argent. Il a conçu un plan dont il n'a pas perçu finalement l'issue dramatique. Il n'est pas bon de tomber entre les griffes de Satan. Les quelques versets qui suivent en donnent cet aperçu, Matthieu 27, 3 à 5. « Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, donc Jésus, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il ? C'est toi que cela regarde. » Et Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et puis, autre chose que nous connaissons sans doute très bien, la destinée finale de Satan après un dernier déchaînement, en Apocalypse 20, verset 10. « Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Et je fais ici volontairement un grand raccourci, ce n'est pas le sujet de ce matin, sur Apocalypse 20, pour ne considérer que la fin ultime. Déjà en Genèse, la destinée de Satan était scellée, puisque, ayant amené Ève et Adam à franchir la limite imposée par leur Créateur, les conséquences furent terribles pour l'humanité. Mais Dieu définit cette fin inéluctable de Satan en annonçant que la descendance de la femme sera à l'origine de sa défaite. Jésus sera victorieux des funestes conséquences en payant de sa vie le prix de la justice de Dieu. La mort est vaincue, la puissance de Dieu se manifeste dans la résurrection de Christ. Satan a créé la zizanie. Genèse 3, 12, 15, l'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrira en 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57, « Mort, où est ton aiguillon ?» Nous chantons un cantique comme cela. « Enfer, où est ta victoire ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Satan, et c'est parfois ce qui, peut-être, nous retient quelque peu. Ce n'est pas toujours la timidité qui nous retient d'annoncer l'Évangile. Parfois, nous sommes un peu déçus de voir du résultat, de voir peu de réponses. Satan a un rôle d'obstruction au progrès de l'Évangile. Dans la parabole du semeur, c'est encore le diable qui enlève la parole du cœur de ceux qui entendent au bord du chemin. Luc 8, 11 et 12. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Et puis, le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. La sainteté aussi est à l'opposé de ce que représente le diable. En 2 Corinthiens 6, 14 à 16, nous lisons « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable ? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant ? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? Chaque opposition, je l'ai mis en gras dans mon texte, mais nous connaissons tout cela. En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Pour ne pas avoir écouté cet avertissement, certains s'en mordent les doigts, parce que cet avertissement n'est pas donné à la légère. Le discernement demeure le maître mot. Prenons garde dans nos associations, dans nos relations. Nous sommes dans le monde et nous fréquentons le monde. Mais rien ne nous oblige à nous associer au monde. La vigilance est toujours de mise et comme pour nos systèmes informatiques, les virus entrent par ce que l'on appelle des portes, des accès que les spécialistes peuvent détecter et fermer pour protéger les systèmes. C'est pourquoi il est essentiel de faire toutes les mises à jour, qui le plus souvent sont uniquement des ajustements de sécurité face aux nouvelles menaces qui sont produites par des informaticiens dans le monde, parfois même au service d'État, pour corrompre les systèmes informatiques, voler des données, pénétrer les systèmes, réclamer des rançons, faire face aux nouvelles menaces. Ne sommes-nous pas plus vigilants en ce domaine informatique qu'en matière spirituelle ? Jésus a cru bon prier pour ses disciples pour qu'ils puissent tenir bon face aux assauts du diable. En Éphésiens 4, verset 26, et là nous entrons dans un domaine pratique, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Nous avons tous des caractères différents, certains plus rancuniers que d'autres. Moi, j'oublie assez vite. Enfin, peut-être que je n'oublie pas, mais les choses retombent très vite. Mais lorsque cela se produit, il convient de couper court. Sinon, le mal enfle et le diable s'incruste dans nos vies. Il s'agit bien plus que de psychologie. c'est reculer face à un adversaire qui veut nous affaiblir et par là même affaiblir l'Église. La soumission à Dieu et non au diable. Jacques, dans son épître au chapitre 3, versets 13 à 18 et le verset 1 à 10, peut-être vous pouvez prendre l'épître de Jacques, comme ça vous lirez avec moi. Épître de Jacques, chapitre 3, 13 à 18. Et dans la foulée, le chapitre 4, les versets 1 à 10. Sagesse et mauvais désir. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Tout à l'heure, dans le dernier cantique qu'on a chanté, il était question de la douceur. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, et ne laissons pas ça aux autres, pensons à nous-mêmes. Ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine. Et là, nous rentrons dans le domaine de Satan, purement humaine, virgule, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix et pas ceux qui se laissent aller. D'où viennent les conflits? D'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et on pense tout de suite, ah oui, à la chair, mais il y a bien plus que cela. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Les mots sont extrêmement forts ici, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et là, vous vous dites, mais je demande tant de choses au Seigneur. Mais le Seigneur n'attend pas toujours ce genre de demande que nous avons peut-être l'habitude de faire. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, adultère que vous êtes, et c'est une accusation que les prophètes faisaient au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament aussi, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? Je ne dois même pas poser la question, le texte pose la question. C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore, et c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et c'est le cœur de ce message. Résistez, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et le texte est encourageant parce que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il sera plus proche de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Peut-être que certains diront, comme ce cinéaste que j'ai entendu hier sur la première, et qui disait, nous vivons, Tout de suite, j'ai relevé la tête. Il dit « Nous vivons dans un monde de ténèbres et il y a peu d'occasions de se réjouir. » Alors, ce passage que nous venons de lire nous choque peut-être, mais il contient le secret de la tranquillité pour notre âme. Nous approcher de Dieu pour que nous ayons un regard juste sur notre nature pécheresse, sachant que nous avons été rachetés à un grand prix. Et la deuxième phase est que Dieu s'approchera de nous. Rappelons-nous la détresse de Judas qui voulait revenir en arrière. En relisant ce passage où il voulait rendre l'argent, j'éprouvais de la tristesse. Voyant combien il a été abusé par Satan, et que même l'argent convoité n'avait plus d'importance pour lui, alors qu'il prend toute la mesure de la trahison de son maître. Innocent. Même sa propre vie n'a plus de sens. Les corrupteurs, comme des mafieux, n'en ont que faire. Cela ne les concerne plus. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et comme le disait Billy Graham, oui, il y a de la joie dans le péché, mais cette joie ne dure qu'un temps. Mieux vaut alors que le rire se change en deuil et la joie en tristesse. La promesse de l'humiliation devant Dieu est qu'il nous élèvera. Un tableau pratique à décortiquer et où le diable prend une place de choix. Et il nous faut développer le sens pratique de ces choses pour nous-mêmes et pour l'Église, parce que si nous n'en tirons pas de conclusion pour l'Église, nous passons sans doute à côté de quelque chose d'extrêmement important. Et j'évoque brièvement deux exemples. Nous avons, avec la commission permanente, dû organiser ces derniers jours deux rencontres qui concernent une église en particulier, que je ne citerai pas, bien évidemment. C'est notre rôle d'écouter et de conseiller, d'exercer autant que faire se peut le discernement pour que la conciliation, un esprit de paix, soit retrouvé, non pas en négligeant les problèmes, mais pour que l'Église, dont le Seigneur est le chef, soit préservée d'une division. Fin du partage. Mais sans négliger les problèmes, j'ai entendu un frère dire au sujet d'une décision que nous considérions comme précipitée, il a dit « Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est venu comme ça. » Et je me suis dit que si l'on n'y prend pas garde, Satan s'insère dans le problème et provoquera la division et la zizanie comme il souhaite le faire. Deuxièmement, lors de la visite de Martha et Umaru, il y a quelques dimanches, Martha, qui n'a pas un goût pour le sensationnel, vous la connaissez, a glissé discrètement à la fin de sa présentation « Priez pour nous parce que Satan veut diviser dans l'Église ». On prie volontiers pour la propagation de l'Évangile, pour la sécurité dans ces pays où l'islam est majoritaire, mais sommes-nous vigilants pour la paix et l'unité de l'Église? Et troisièmement, pour nous-mêmes, avons-nous l'expérience de situations où nos paroles ont dépassé notre pensée, où nos agissements même ont été trop loin? En bourse, bourse des valeurs, ceux qui gagnent, c'est toujours au détriment de ceux qui perdent. Dans l'Église, est-ce que je veux gagner pour moi ou pour Christ? Dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je gagne à céder à mon moi naturel? Une question de relation, de proximité avec Dieu, de prière et de soumission. 1 Pierre 5, versets 5 à 9, « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Et ça, quelque part, c'est rassurant, de voir comment Dieu s'oppose aux orgueilleux. Peut-être que nous devons réfléchir à cette question pour nous-mêmes, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Bof. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Cela ne va pas de soi, cela réclame des efforts, de la vigilance, parce que le lion rugissant est à l'affût et il sait bien se faire oublier. Je n'ai jamais été face à un lion. J'espère ne jamais l'être. Peut-être aux eaux d'Anvers quand j'étais petit, mais il me paraissait bien fatigué. Mais si je me trouve en face d'un lion dans la savane, peut-être que certains parmi nous ont peut-être eu cette expérience, je ne sais pas, mais si on est en face d'un lion, je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il fasse de nous son dîner ou son souper. Mais quand je le vois en télévision, dans des reportages sur la faune, je vois souvent le lion couché, en train de se reposer. C'est la lionne qui chasse, parce qu'elle est habituée à cela pour nourrir sa progéniture. Et puis le lion vient, lui, quand il prend la plus belle part, et puis après il retourne se reposer. Mais le lion rugissant, ne l'oublions pas. Il sait se faire oublier. La parole nous appelle à la confiance en Dieu, car lui-même prend soin de nous. Tout cela est intimement lié à la sanctification, qui a fait l'objet d'ailleurs de nos 5 rencontres dans les maisons, le cours de la saison passée. Et 1 Jean 7, versets 7 à 12 dit « Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. L'influence du diable est manifeste. Tout comme ici, où Jésus discerne clairement la main de Satan dans l'attitude de Pierre. Satan instrumentalise Pierre pour contrecarrer le plan de Dieu. Je lis ce texte, Matthieu 16, 22-23. « Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan !» À Pierre, mes amis, arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dans l'épisode de la vente du champ d'Ananias et Saphira, avec la dissimulation du vrai prix aux apôtres, les désirs cachés ont été cette porte ouverte par laquelle Satan s'est inséré dans la manœuvre. Acte 5, versets 3 à 5, Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Le changement de vie est aussi un changement de sphère d'influence. Acte 26, 18. « Je t'envoie leur ouvrir leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Paul témoigne devant Agrippa, et ceux qui ne croient pas sont sous la puissance de Satan et demeurent donc dans les ténèbres. Un avertissement à l'Église, n'est-ce pas ? Romains 16, 17 à 20, « Je vous supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous, et je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Chaque détail de notre vie est concerné. On est intègre ou on ne l'est pas, et nous le savons bien. J'ai évolué pendant près de 20 ans dans un milieu où on affichait partout sur les murs l'intégrité, une valeur de la police judiciaire fédérale. Ça n'empêche pas certains d'être corrompus. Il y a des chrétiens dont nous n'avons aucun doute sur leur intégrité, ni de leur droiture, et cela doit se voir, ça doit être une évidence. Sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Aujourd'hui et demain aussi. Et Satan est encore de la partie en ce qui concerne des ouvriers trompeurs, n'est-ce pas, comme en 2 Corinthiens 11, et je passe sur ce passage rapidement, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Attention à ce carnaval de déguisement qui est tragique pour l'Église. La tromperie. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Ce que cela ne veut pas dire qu'il faille négliger un problème s'il survient, qu'il soit d'ordre théologique ou de comportement individuel. Mais la protection de l'intégrité de l'Église qui appartient au Seigneur doit être au centre de notre préoccupation. Cela coûte de dépasser les apparences trompeuses pour toucher le fond d'une discorde, fût-elle légitime. Si vous prenez la peine de relire Daniel 10, vous découvrirez le chef du royaume de Perse, ennemi de Dieu et de son peuple. Ce chef n'est selon toute vraisemblance pas le roi de Perse parce qu'il s'agit du thème du combat spirituel. Et dans la vision de Daniel, une puissance spirituelle surnaturelle, un esprit du mal influençait les puissances de destruction qui cherchent à renverser Israël. L'esprit qui dirigeait les ambitions et la politique du royaume de Perse et surtout l'incitait à nuire à Israël. L'apôtre Paul et ses compagnons ont beaucoup souffert aux mains des autorités païennes qui les ont battus et emprisonnés. L'apôtre identifie pourtant un ennemi plus redoutable. Et c'est bien ce qu'il écrit en Éphésiens 6, au verset 12. « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Paul savait qu'il affrontait le diable et toutes ses armées de démons. Nous faisons face aux ruses du diable, et peut-être que nous marchons sans considérer cela. mais nous nous trompons alors. Nous pouvons, comme bien des chrétiens, faire preuve de grande naïveté face à ces stratagèmes. Parfois, nous visons quelqu'un dans l'Église, nous visons plusieurs personnes. Mais ce n'est pas contre les personnes que nous devons lutter. L'apôtre le dit, nous devons réaliser qu'il y a quelque chose de plus fort derrière. Nous pouvons nous rappeler que de nombreuses sectes prennent la parole de Dieu, mais la tordent. Et seul un croyant instruit dans la parole de Dieu peut déceler la méchanceté de Satan dans ce domaine. Dans le domaine politique aussi, reconnaître son influence sur les dirigeants de ce monde. Hier, la nouvelle est tombée. Et la dépêche disait encore un épisode absurde à l'ONU. La 76e Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé a élu la Corée du Nord à son conseil exécutif. Une dictature qui combat les chrétiens, où la vie n'a pas beaucoup de prix, et ça passe à l'OMS. Ça ne dit rien de bon pour le futur. Derrière les dictateurs, les systèmes totalitaires, les puissances persécutrices et les tyrans de ce monde, la Bible voit Satan et ses subordonnés déployés contre l'humanité en général et l'Église de Dieu en particulier. Qui peut dire quel esprit pénétrait Antioche Épiphane, Néron, Hitler? Les nazis avaient des réunions secrètes dans un château en Bavière. Ils faisaient de la magie noire. La mort fait partie de la malédiction de Dieu sur le péché et la Bible. Nous le savons. Et nous savons, nous avons manifesté tout à l'heure à la Sainte Cène la mort et la résurrection de Christ. Nous nous en sommes souvenus, n'est-ce pas? Sa domination sera totale, celle du Seigneur. Ne soyons pas déçus aujourd'hui de voir encore tant de mal et tant de souffrance. Satan, le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 1:1-3, « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde et conformément au prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » J'ai lu que certains se sont opposés à l'aviation à ses débuts pour ce motif, parce que Satan est le prince de la puissance de l'air. C'est amusant. D'autres ont exprimé l'idée que lors de l'ascension du Seigneur, la nuée était destinée à le protéger du prince de la puissance de l'air. Bien évidemment qu'il s'agit de toute autre chose, et le texte le dit d'ailleurs. Il s'agit de l'esprit qui est à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Cela n'empêche que dans le livre de Job, Satan répond à Dieu qu'il vient de parcourir la terre. Aucune souveraineté n'est d'ailleurs accordée à Satan. Mais s'il agit dans le cœur des hommes rebelles, ceux-là lui sont donc asservis. Et nous avons eu un webinaire avec Steve Orange sur la forme d'apostasie de l'Église anglicane qui abandonne certains principes bibliques, pas dans sa totalité, bien sûr, et heureusement, mais 1 Timothée 4:1-2 dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. » Le contexte parle bien sûr de l'interdiction de se marier, de s'abstenir de certains aliments, mais les fausses doctrines touchent bien d'autres choses. Une vision d'avenir qui précise le rôle accru de Satan dans le monde. Comment serions-nous encore aveugles après de tels avertissements? Prenons donc garde à la fausse sagesse qui harcèle l'Église. Et nous concluons avec deux extraits d'Apocalypse. Apocalypse 2 et 3, un extrait concernant l'église de Smyrne. « Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et à l'église de Philadelphie, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Les faux prophètes sont des instruments du malin, par qui s'expriment les esprits mauvais. Mais la prééminence de Christ demeure. « Je te garderai à l'heure de la tentation. » Et nous terminons par 1 Jean 4, les versets 1 à 6. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde, et voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, et voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Satan reste l'ennemi de nos âmes. Soyons-en persuadés. Il est l'ennemi de l'Église. Et ça se vit dans des choses pratiques, des choses tangibles, des paroles, des pensées, des actes, oserais-je dire, des conciliabules. Mais Christ est vainqueur. Amen.